Canalem, on aime l'été. Bonjour tout le monde, déjà mardi. Bonjour François.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien, le moral est bon.
Très bon,
et toi ? Les touffes sont fraîches, oui, oui, ça va très très bien. En ce bel été que nous passons ensemble avec, avec des sujets très très estivaux, ma foi. Comme le premier par exemple, François.
Le paddleboard.
Adapté.
Paddleboard adapté.
Bien sûr, adapté.
Ouais.
Parce que déjà que je trouve
ça qui est intéressant,
pas adapté à moi, mais alors là, j'ai hâte d'en savoir plus. Et puis ensuite, on va se poser la question et vous allez nous répondre, François, où vaut-il mieux être malade et quelles sont les différences fondamentales entre les systèmes de santé au Québec, en France ou ailleurs?
Oui, c'est un peu tabou, mais c'est quand même grave.
Mais oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il faudrait même déménager pour se faire soigner?
Dans certains cas, certaines personnes le font.
Ah oui, hein. On va aller faire un petit tour au festival de Saint-Sauveur. Et puis, moi, je vous propose quelques livres d'été à vous mettre entre les oreilles. Et puis après, on retrouve avec plaisir votre petite préférée.
Mais oui,
laquelle?
Bien sûr.
Emmanuel.
Ben oui, Emmanuel avec son billet.
C'est ça, avec son billet sur les billets. Et puis on fera une petite plongée à Rimouski dans l'ambiance estivale et culturelle de cette ville et de cette région. Tout de suite après cette chanson, on s'en va retrouver Hugo Lavictoire, président directeur de KSK, qui va nous parler du paddleboard adapté.
Ne soyons pas ridicules, voyons-nous encore demain. Une vie, on n'en a qu'une, toi et moi, prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires, droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une, des chagrins, on en a plein. Une vie, on n'en a qu'une, de rocher ou de satin. Ne soyons pas vulnérables, si le temps est incertain. Une vie, on n'en a qu'une, des soucis, on en a plein. Tous les deux de rester loin. Une vie, on n'en a qu'une. Nous ne sommes que deux humains. Nous marchons droit sur la ligne, à la croisée des chemins. Une vie, on n'en a qu'une. De l'amour, on en a plein. Toi, tout près de moi.
La grande Sophie nous chantait Une vie.
Bonjour Monsieur Hugo Lavictoire.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de KSF.
Exactement.
Alors KSF, qu'est-ce que ça veut dire KSF d'ailleurs?
C'est l'acronyme de Kayak Sans Frontières.
Ah, Kayak Sans Frontières, oui évidemment, parce que le paddleboard c'est quand même de la famille des kayaks, c'est quand même un peu de la glisse sur l'eau.
Tout à fait, et il y a une pagaie, donc à part la position où on est plus debout que assis, c'est pas mal dans la même famille.
C'est ça, et puis déjà quand on est sur ses deux jambes, c'est très compliqué, non? C'est un peu instable.
Oui, ben ça peut paraître un peu instable, mais c'est un peu comme réapprendre à marcher.
Ah bon?
Alors, ça se fait quand même assez vite. Oui, c'est tous les muscles stabilisateurs, toute la proprioception qui rentre en ligne de compte.
Ouais.
Et là, ben notre cerveau fait un peu le calcul. Si on met trop de poids à gauche, on penche à gauche, il faut compenser.
Oui.
Et comme apprendre à marcher, ça prend assez rapidement.
Ah d'accord. Mais alors, votre but, c'est de faire du subboard, du sup. On appelle ça du sup adapté, en fait.
Oui, oui, oui. On en fait aussi, nous, lors d'un festival qui s'appelle le MTL Sup Fest. Et puis, oui, on a un volet sup adapté.
Et comment ça se passe? Parce qu'en fait, on peut mettre un fauteuil sur un paddleboard?
Oui, on peut mettre un fauteuil. Tout d'abord, il faut avoir une planche qui a été adaptée.
Oui.
Donc, avec des flotteurs de chaque côté, à droite, à gauche.
Ouais,
et ensuite, ça prend un bon quai là, comme rampe de lancement, puisque le fauteuil roulant va rouler sur le quai. Et on fait un transfert de la personne d'un fauteuil à l'autre. L'autre fauteuil est déjà installé sur la planche.
Ah,
et
oui.
Puis, une fois que le transfert est fait, ben, on peut, avec un guide ou par soi-même, pagayer et découvrir les joies d'être sur l'eau.
Oui, bien sûr, oui. C'est tout de même pas tout à fait... Enfin, c'est un peu compliqué d'imaginer d'être sur une planche avec un fauteuil roulant. On peut aussi se mettre, j'imagine, sans fauteuil roulant. Je pense que même si on est dans fauteuil roulant, si on peut se descendre du fauteuil roulant, on peut s'installer sur la planche, non?
Tout à fait. Ça va dépendre de la limitation de la personne. Y a des gens qui vont pouvoir s'asseoir, un peu comme sur un kayak. Y a des gens qui vont pouvoir se mettre à genoux. Donc oui, on n'est pas obligé d'être dans un fauteuil.
Vous faites ça où? À quel endroit est-ce que vous êtes?
Nous, on fait ça à la salle. Donc, c'est sur le bord, c'est près des rapides de la Chine. C'est dans un grand bassin d'eau calme. Et puis, l'eau est calme et c'est vraiment propice là, pour l'apprentissage là, de sport nautique.
Est-ce que tous les clients qui viennent, arrivent à se débrouiller avec ça?
Oui, 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 tout à fait. Comme je vous dis, suffit de s'y mettre pour la première fois, d'avoir un petit cours d'introduction. Donc, les positions, les différentes positions qu'on peut s'installer sur la planche. Ensuite, comment pagayer, comment diriger la planche.
Oui, il y a un moniteur
oui,
aussi,
c'est vraiment
pense.
À la porte. Oui, toujours un moniteur. Et c'est vraiment un sport, là, facilement, on peut dire, de 7 à 77 ans.
Oui.
Et il n'y a vraiment aucun danger de chute, je ne sais pas. S'il y a un bateau, par exemple, un moteur, on sait qu'il y a quelques abrutis, parfois sur l'eau, qui passent trop vite, qui font des grosses vagues, qui font...
C'est pas exclu, ça fait partie un peu du cours, ça fait un peu partie de l'activité.
Oui.
La première chose qu'on montre aux gens, c'est comment remonter sur la planche.
Ah oui?
Oui, de tomber et de remonter sur la planche, puisque ça va arriver. Nous, on dit toujours qu'il tombe pas, n'apprend pas. Donc,
oui, mais avec un handicap, parfois, il y a des handicaps qui...
Ben là, c'est ça que j'allais dire. Dans le cas du stop adapté, voyez, imaginez un peu un catamaran.
Mm-hmm.
Donc, chaque côté de la planche, on a une espèce de perche et un autre flotteur. Donc, là, c'est pratiquement impossible de tomber puisque la planche va se être très, très stable.
Ah, d'accord. Donc, c'est hyper stable.
Oui, 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 oui.
D'accord.
Puisqu'en plus, dans le cas du SUP adapté, le moniteur souvent va être sur la planche avec la personne. Donc, ils sont deux. Donc, il faut avoir une très grosse planche, très volumineuse, très stable. Et en plus, avec les flottaisons d'appoint, il n'y a vraiment aucun danger.
D'accord. Vous faites ça depuis combien de temps?
Ça va être notre troisième année. On a eu l'idée. C'est une de nos bénévoles au SUPFest qui a parti ça. Et puis, qui travaillait déjà là, pour Altergo, les jeux pour personnes à mobilité réduite.
Mmh. Ouais.
Donc, on a commencé il y a 3 ans. Puis, ça va être notre troisième année. Puis, on vit un beau succès. On a de plus en plus de gens qui viennent pour s'initier à cette activité-là.
Et tout, donc, il n'y a pas que des gens qui sont handicapés qui peuvent venir. Il y a aussi, j'imagine, tout le monde peut venir chez KSF.
Oui, 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 oui. Nous, on est une école de sport nautique non motorisé, donc kayak de rivière, planche de sucre et surf de rivière. Et puis, le volet sans adapté, c'est vraiment une très petite partie de notre clientèle.
Où est-ce que vous l'avez fait faire, cette planche-là? Parce que et ça ne doit pas courir les cours d'eau.
Non, ça ne court pas les cours d'eau. Au début, on avait pris juste des grosses planches avec des fournisseurs connus, des fournisseurs de planches. On allait chercher le plus gros modèle. Mais on a la chance de travailler, nous, avec une compagnie québécoise qui s'appelle Taiga Board. Et puis, ils se sont spécialisés dans les planches de sucre. Et puis, on leur a fait faire deux planches avec des dimensions plus adaptées, justement, pour amener des personnes à mobilité réduite sur l'eau.
Mais il faut quand même être déjà un peu à l'aise. Je pense qu'il faut être à l'aise dans l'eau, quand même, ou d'avoir été à l'aise, même avant le handicap, pour pouvoir monter dessus.
Oui, je vois ça un peu de deux façons. Les gens, oui, qui ont déjà été à l'aise et qui veulent retourner à l'eau malgré leur handicap, mais aussi peut-être des gens qui veulent... peut-être même travailler leur crainte de l'eau, parce que c'est vraiment, il va très graduellement. Puis ça peut quand même être fait, je pense que ça peut s'adapter à presque n'importe qui. Mmh. Parce que, comme je vous dis, avec le cas de la planche, là, de sub adapté, c'est très, très stable. Et puis, il n'y a pas vraiment de danger de tomber. D'accord. Donc, il faut juste avoir un peu de volonté d'être aventurier et d'avoir le goût d'essayer des choses différentes.
Et c'est souvent le cas pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Ce n'est pas parce qu'ils le sont qu'ils n'ont pas envie d'essayer des choses. D'ailleurs, vous avez reçu quelques très, très beaux témoignages. Hein. Je pense, par exemple, à cette personne qui écrit « J'étais tellement heureuse sur la planche. J'ai eu le sourire du début à la fin. Vous m'avez permis de réaliser un autre bel exploit dans ma vie. » Ça doit vous faire particulièrement plaisir parce que, vous savez, il n'y en a pas tant que ça des gens qui font des efforts comme vous le faites pour rendre leurs activités accessibles, hein, inclusives.
Non, absolument pas. Puis, je veux dire, je vois exactement de qui vous voulez parler. Puis, je peux vous dire que ce sourire-là était très contagieux au reste des gens qui ont assisté à cet exploit-là. Là. Donc, oui, on est très fiers. Puis je tiens à partager ce beau succès-là avec Jen Pesch, qui elle, a été la personne qui a amené ça là, lors du festival. Là.
Oui, oui, ben vous allez la remercier aussi de notre part, de la part de tous les auditeurs de Canal M. On vous rejoint comment, si on veut s'inscrire? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Parce qu'il n'y a qu'une seule planche pour l'instant?
Non, pour l'instant, on a deux, trois planches.
OK.
Puis c'est plus sur, je dirais, c'est plus comme en cours privé ou en cours de demande spéciale. Par contre, quelqu'un qui voudrait participer lors de notre festival, MTL Subfest, si vous mettez ça dans un moteur de recherche, vous allez le trouver sans problème. Et puis, les dates sont le 10 et le 11 août.
Mmh.
Et okay. Puis,
Une date précise.
Oui, pour ce festival-là, c'est à date précise. C'est toujours la deuxième fin de semaine du mois d'août. On va être à notre quatrième édition. Et puis, dans tous les cas, sinon, ksf.ca. Et puis, on va vous repointer vers le festival. Puis, on peut toujours le faire là, en petit groupe, sur demande.
Et combien ça coûte, en fait, de faire cette paddleboard adaptée?
Dans le cas du festival, on voulait garder ça très, très pas cher. Ça a été gratuit pendant les deux premières années.
Ah, c'est bien.
Cette année, ça va être 15 $, tout simplement parce qu'on veut essayer d'avoir plus de gens sur l'eau.
Mais
et
oui.
Puis, on ne sait pas encore ce que on va faire avec les sous, mais ça va être redonné à la communauté, là, ouais, de toute façon.
Acheter
une autre planche, exactement, augmenter.
Ben oui, exactement.
C'est 15 $ de l'heure, donc, c'est ça?
À peu près, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'installer la personne, là, que ce soit dans le fauteuil ou
mais
non,
oui, ça prend
peut
du temps.
Quand même prendre un peu de temps. Mmh. Donc, on parle d'une balade là, sur l'eau là, d'une trentaine de minutes, je crois. Là.
Donc, en fait, on peut dire que c'est ksf.ca/sup/sup-adapté.
Sup, comment vous écrivez ça, vous?
S-U-P.
S-U-P, bêtement, d'accord.
Oui, okay. Bêtement. Et on
c'est l'acronyme de Stand Up Paddleboard en anglais.
Voilà, très bien. Parfait. Okay. Bon, écoutez, c'est vraiment plein d'espoir et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir se promener sur l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Hugo Lavictoire, et bravo.
Merci à vous et au plaisir de vous voir peut-être le 10 et 11 août.
Au revoir.
Au revoir. Merci.
Bonne journée.
Éternel musicien, et que par peur, je me ronge les sangs, je continue.
même si paraît-il faut avancer. Mon cœur demeure là à pleurer, une mélodie que personne n'entendra. Bien que le parcours semble incertain, je reste éternel baladin. Nul besoin de tous ces apôtres qui m'indiquent où il faut marcher. J'ai tenté de plaire comme les autres, être fier et avide de réussite. Mais mon cœur lui porte toujours en fuite, car les cordes de guitare ne s'arrêteront pas. Samaritain, un petit coup pour nos chagrins, une raison de plus pour trinquer. Hey, à boire, un peu de vin, là tranquillement, mon verre se vide, mais au moins mon cœur est à moitié plein, car les cordes de guitare ne s'arrêteront pas. Rien, je reste éternel musicien, mais que les erreurs me glacent le sang, je continue de gratter quelques accords comme passager pour ensoleiller les jours de pluie, car mon cœur embrasera la vie tant que les cordes de guitare ne s'arrêteront pas.
Les cordes de guitare par la formation Escarbot.
Vous, vos cordes, François Baruel, évidemment, de par vos activités professionnelles d'antan, c'est la médecine.
C'est la médecine.
Et parlons-en de la médecine. Est-ce qu'il vaut mieux être médecin, quoi ? Est-ce qu'il vaut mieux être malade ? Commençons par ça. Ici ?
Ah, déjà. Ah oui,
ou
ici,
de l'autre côté,
ou de l'autre côté de
l'Atlantique.
Ça dépend des choses. Ça dépend pourquoi. Parce que c'est vrai qu'ici, on a un système de santé qui est... qui, une fois qu'on est rentré dedans, le système
est assez fantastique.
Est extraordinaire. C'est vraiment le système qui est celui qui permet de se faire soigner totalement gratuitement et pratiquement totalement gratuitement si on reste dans le système hospitalier. À l'égal d'ailleurs de celui qu'on trouve de l'autre côté de l'Atlantique.
Okay.
Par contre, il est difficile parfois de rentrer dans le système. Il y a des listes d'attente pour avoir son médecin de famille. Ouais, ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a tout de même une sous-consommation d'antibiotiques ici, par exemple.
Ah oui ?
Parce qu'en France, il y a une surconsommation. Étant donné qu'on a un médecin, dès qu'on le veut, on téléphone, on a un médecin. Et très souvent, les patients réclament des antibiotiques pour ceci, pour cela. Et on a facilement l'ordonnance antibiotique.
Oui, facile.
Ben oui, c'est facile. Et ici, c'est moins facile. Et souvent, je m'aperçois que beaucoup de petits bobos, finalement, se traitent avec un peu de patience, comme il le faut. Avec un peu de paracétamol, de Tylenol, d'acétaminophène, un peu d'aspirine. Ouais. Et c'est vrai que ça se passe assez bien, bien en général. Mais c'est vrai que pour arriver à avoir un système de santé qui soit équivalent, ça demanderait quand même pas forcément plus d'argent, mais il faudrait quand même avoir un petit peu plus de personnel.
Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble. Quels sont, par exemple, les avantages à être malade en France et les inconvénients versus les avantages et les inconvénients? Bon, puis je parle de la France, j'imagine, je ne sais pas, vous êtes peut-être aussi allé voir
Pays-Bas et Angleterre.
Alors, faites-nous un petit peu, dressez-nous un petit peu le portrait alors, de ces pays-là.
Le portrait de l'Europe, en fait.
Du système de soins publics.
C'est toujours, c'est gratuit. dans tous les pays, dans tous les pays européens, c'est pratiquement gratuit.
Mais on paye quand même et on se fait rembourser.
Alors pas toujours, parce qu'en fait, maintenant, lorsqu'on est même en France, on ne paye plus du tout. Dans certains cas, on ne paye plus du tout à partir d'un certain niveau. Quand on a une CMU, par exemple, enfin des cartes de en dessous d'un niveau de revenu, on ne paye rien du tout.
Le SAMU étant le système ambulancier, le système d'urgence.
C'est ça. Okay. Donc on peut avoir une consultation en France ou aux Pays-Bas ou même en Allemagne, on a une consultation dans les 3 jours ou 4 jours avec un médecin, ça c'est sûr et certain. On peut même choisir les médecins, on peut même, je dirais, entre guillemets, presque les mettre en concurrence.
Vous voulez dire que on a tous là-bas, toutes, un médecin qui nous connaît bien, donc un médecin de famille,
c'est ça.
Qu'en l'espace de 3 jours, si on a un problème, on peut avoir un rendez-vous.
Alors on peut avoir un rendez-vous en France, par exemple.
En France,
on a un médecin dit référent. On va voir son médecin référent qui ensuite vous dispatche auprès du cardiologue,
des
spécialistes. À ce moment-là, on est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Si on est bien sûr dans le médecin, disons, qui a signé un contrat avec la Sécurité sociale. Si on va directement voir un spécialiste, ce qu'on peut faire, on n'est pas pris totalement en charge par la Sécurité sociale. Il faut d'abord passer par le médecin généraliste, exactement comme ici.
Comme ici.
C'est exactement la
Mais
même chose.
Si
Mais
on veut pas, y aller. On peut y aller.
On peut y aller quand même. Et comme les mutuelles sont beaucoup plus fréquentes en France qu'ici, finalement, c'est pris en charge.
Hein?
Donc, on a une facilité d'accès qui est quand même beaucoup plus grande. Finalement, ça revient un petit peu au même, sauf que lorsqu'on a une hanche qui est abîmée et qu'on a vraiment besoin de se faire opérer, c'est vrai qu'ici, on va attendre 18 mois. En France, on va attendre 15 jours. Oui, c'est ça le truc, en fait. C'est la grosse différence, elle est là.
Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas, François ?
Eh bien,
comment ça se fait ? Je veux dire, on en a vu passer des gouvernements libéraux, péquistes. On n'y arrive pas. Pourquoi ?
On n'y arrive pas, parce qu'en fait, on n'y arrive pas. Et pourtant, quand on regarde les dépenses en fonction du produit intérieur brut, produit intérieur brut, c'est
PIB,
grosso modo le chiffre d'affaires du pays.
Oui, c'est ça.
Eh bien, mondialement occidental, dans tous les pays occidentaux, il est autour de 10, 10,5, 11. C'est toujours à peu près la même chose.
Ouais.
Et donc, ça veut dire que on dépense la même chose ici, au Québec, qu'en France. On est toujours à 10,5.
Ouais.
Alors, il y a moins de matériel, il y a moins de personnel. Et comment ça se fait ? C'est vrai, on ne comprend pas très très bien. Je ne comprends pas très bien où va l'argent qui coule. On pourrait dire à flot en France. C'est vrai que, par exemple, regardez, après une opération de la hanche, on a de la kinésithérapie pendant 6 mois. Ici, on n'en a pratiquement pas. On se casse un poignet, c'est vrai qu'en France...
Mais d'abord, il y a quelques avantages.
Il y a des avantages, bien sûr. La médecine est de très bonne qualité. À partir du moment où vous avez quelque chose de grave et que vous arrivez aux urgences et que vous êtes pris en charge... Ça va très vite vous êtes traité tout de suite.
Comme
et
un roi.
Vraiment comme un roi. Et là, vraiment, la qualité de la médecine, elle est vraiment excellente. C'est vraiment très bien. Pour tout ce qui est grave, en fait, ici, c'est vraiment parfait.
Je vais peut-être vous poser une question piège, mais est-ce qu'il y a un pays référent ? C'est-à-dire le pays où on a l'impression que entre guillemets, que c'est parfait. Ça existe ?
Oui, c'est les Pays-Bas. Ouais. Mais les Pays-Bas, c'est parfait, mais par contre, il y a tout de même une part privée. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est toujours dans les 11% du PIB, voilà, c'est ça. Toujours 11% du produit intérieur brut, c'est-à-dire toujours la même chose, finalement. Mais la part du public, ou du moins la part de l'État, est moins importante que ce qu'on va payer soi-même. Alors c'est vrai, c'est un petit peu plus cher. Mais là encore, ce sont les mutuelles donc, qui sont là et
qui prennent en charge.
On a de l'argent, on est bien soigné, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais c'est les Pays-Bas. La France vient après et, l'Angleterre est à peu près au même niveau que la France. En Allemagne aussi, c'est excellent. Et ici, ce que je trouve de très curieux, c'est qu'on manque de médecins et 40% des Québécois n'ont pas de médecin de famille. N'est-ce pas ?
Donc, ils n'ont 40%.
Pas 40%.
Plus d'un tiers.
Plus d'un tiers des Québécois n'ont pas de médecin de famille. Il y a plus de médecins dans le reste du Canada. Mais c'est au Québec. C'est une spécificité un peu québécoise quand même. Curieusement, il y a les mêmes le même financement et la même quantité d'argent par personne pour les Québécois.
Oui.
Mais où passe cet argent? Alors, oui. J'ai fait une petite étude.
Oui, allez-y donc.
Ça ne va pas faire du tout plaisir à mes confrères québécois.
Oui, allez-y.
Et puis là, c'est une comparaison qui me choque un tantinet tout de même. Et c'est vrai que moi, ça me fait du mal de voir ça. C'est que ici, un médecin omnipraticien, un médecin de famille...
Un médecin généraliste
de famille, un Québécois, gagne 244 000 dollars par an.
Bon.
Le même, en France, gagne 110 000 dollars par an, c'est-à-dire moins de la moitié.
Et pourtant, il y en a plus.
Et pourtant, il y en a deux fois plus par personne, puisque en fait, il n'y a aucune pénurie de médecins en France, sauf dans des endroits très reculés. Et quand on dit pénurie de médecins en France dans des endroits très reculés, ça veut dire qu'il faut faire 20 km pour aller voir un médecin.
Oui.
Ce qui est quand même pas grand-chose, finalement.
Contrairement à ici.
Contrairement à ici.
Il y a plus on monte vers le nord.
Et moins il y en a.
Vous savez, écoutez, il y a certains coins du Québec où il faut prendre un avion quand on est malade.
Exactement. Au Québec, donc il gagne 244 000 dollars par an, mais dans le reste du Canada, c'est 310 000. Alors qu'en France, il gagne donc toujours que 110 000 dollars par an. Donc là, c'est presque trois fois moins.
Et le pire, c'est que lorsque les médecins de là-bas, que ce soit de France ou d'ailleurs, et vous en savez quelque chose, François, débarquent ici...
Oui.
En se disant, tiens, j'ai quand même mieux gagné ma vie. On vous dit, oui, mais il va falloir que tu retournes aux études.
C'est ça. Et ensuite, passer un an ou deux dans le Grand Nord pour faire ses preuves. Et on aura peut-être ensuite la possibilité de s'installer dans un autre endroit. Les spécialistes ici au Québec et dans le fédéral gagnent à peu près la même chose. C'est-à-dire, tout le Canada, c'est 429 000 dollars par an. Ouais.
Il paraît que ce sont les radiologistes.
Les radiologistes, peut-être encore, mais malheureusement, malheureusement pour eux, avec la robotisation et l'intelligence artificielle, ils vont bientôt avoir leur poste va changer parce que l'intelligence artificielle est plus efficace. Les spécialistes en France, c'est 220 000. Donc, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que c'est deux fois moins cher. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de médecins qui sont payés plus du double au Québec.
Oui.
Et un manque de médecins, puisque tout le monde ne peut pas y accéder.
Ah non, ça c'est terrible.
C'est
terrible.
C'est quelque chose qui est un peu choquant quand même.
Oui, vous avez absolument raison François. Puis merci de nous avoir souligné tout ça aujourd'hui.
Je t'en prie.
Restez des nôtres, nous sommes François Baruel et moi-même Clotilde Saille au micro de Canal M pour vous présenter M l'été. Ce midi, en revenant, on va aller faire un tour au Festival de Saint-Sauveur et je vous présente quelques nouveautés dans le domaine du livre audio. A tout de suite.
Vous écoutez M l'été.
Et à M l'été, on aime notamment la danse, François Baruel.
Oui. Oh oui.
Et là, il en sera question au Festival des Arts de mieux que Stromae, pour nous mettre dans l'ambiance.
Tout à fait.
Alors, travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, y'en a encore. Et cela c'est que les problèmes ou bien la musique.
musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore.
Et à Saint-Sauveur aussi, on va danser. Bonjour, monsieur Lavigne. Étienne.
Bonjour.
Étienne, bon, vous êtes directeur général de ce festival, le Festival des Arts de Saint-Sauveur, où l'on danse beaucoup. Mais vous êtes aussi danseur, vous, d'ailleurs, aussi, hein, au départ.
Oui, oui, moi, j'ai commencé en danse très jeune. J'ai eu une carrière d'à peu près 22-23 ans au Ballet National du Canada, où je suis toujours à temps partiel. Je suis un artiste principal là-bas.
Oui.
Et je suis à moitié-moitié. Je suis un peu à Toronto à danser, puis la moitié du temps, je suis ici au Festival des Arts de Saint-Sauveur à préparer notre grand festival.
Et Dieu sait si c'est un grand festival. Encore cette année, je regardais le programme. Première mondiale, activité de toutes sortes, concerts, cinéma à la Belle Étoile, soirée dansante, enfin, c'est un festival, il va pleuvoir des étoiles, je pense, à Saint-Sauveur, c'est bien ça?
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est notre 28e année, puis chaque
28e.
Année on grandit, puis c'est la 5e sous la barre de Guillaume Côté en tant que directeur artistique, et avec moi en tant que directeur général, puis ben Guillaume c'est un des plus grands danseurs au monde, puis il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup d'amis dans le monde de la danse, alors depuis 5 ans surtout, là, on commence à vraiment être capable d'amener un calibre international, là, des vraiment les meilleurs danseurs au monde. Cette année, là, on est très fiers, on fait l'ouverture avec Michel Dorn, sa compagnie Dorn's Dance. Michelle Dorn, c'est la meilleure danseuse de claquettes au monde. Ça fait 3 ans qu'on essaye justement de l'amener à Saint-Sauveur.
Incroyable.
Et puis, on est finalement capable. Donc, c'est elle qui fait notre ouverture. C'est une soirée très excitante. Puis, c'est vraiment Michelle Dorn, ça l'amène la claquette au 21e siècle. On pense pas, c'est pas du Gene Kelly, du Fred Astaire. C'est
non.
Plus vraiment la danse contemporaine, mais à claquette. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait.
Rappelez-moi son nom, je m'excuse, je ne l'ai pas bien compris.
Oui, c'est Michelle Dorn.
Elle
a gagné aussi le, je ne sais pas s'il n'y a pas vraiment une version française, mais le MacArthur Genius Grant, qui est donné à des artistes et des scientifiques, des gens dans leur milieu qui font des choses extraordinaires aux États-Unis. Puis elle a reçu cette bourse il y a 3 ans. Puis c'est une bourse, ça vient avec 750 000 $. C'est vraiment pour vous dire justement l'effet qu'elle a sur le milieu artistique, le milieu de la danse. Ben, là-bas, c'est vraiment connu, c'est vraiment, on croit vraiment en elle.
Vous vous êtes fait un point d'honneur, Étienne Lavigne, à inviter des femmes chorégraphes cette année. Donc, vous venez de nous parler de Madame Dorrance, mais il y en a d'autres aussi.
Oui, absolument. On a une soirée de chorégraphes canadiennes.
Oui.
C'est toutes des premières québécoises, dont une qui est une première mondiale, Gioconda Barbuto, qui est une danseuse qui a été au Grand Ballet canadien longtemps, qui est maintenant une créatrice, une chorégraphe, qui travaille quand même assez depuis longtemps, qui a beaucoup de projets à son nom. Mais pas tant que ça au Québec. C'est très difficile. Il n'y a pas tant de façons, finalement, d'avoir un produit artistique ici au Québec quand on ne le produit pas nous-mêmes. Il n'y a pas tant d'endroits à le faire. Alors, le festival, c'est très important pour nous, la création. Puis c'est très important, la création féminine qui est quand même sous-représentée dans le monde de la danse.
C'est très
traditionnel, quand même, la danse. Ouais. Donc, ça fait longtemps. Puis tous les chorégraphes, tous les chorégraphes classiques, même les chorégraphes masculins, parce que justement, on parle de chorégraphie qui a été faite il y a 80, il y a 100, il y a 120 ans. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment sous-représenté.
Absolument.
Donc, pour nous, c'est important de commencer à vraiment... On a toujours des chorégraphes féminines, mais cette année, on avait une soirée qu'on pouvait offrir des nouvelles créations. Puis on s'est dit, ben, c'est important pour nous de peut-être donner un coup un peu au festival, un coup féminin finalement au festival, donner une soirée. Puis c'est samedi le 27 juillet. Puis c'est trois premières Québécoises qui vont se passer. Anne Plamondon, Gioconda Barbuto, puis Hannah Keel.
Et on vous en remercie beaucoup. Il y a quelque chose aussi que je voyais, puis je me disais, waouh, quelle audace. Mélanger Bach et David Bowie.
Oui, c'est Complexions Contemporary Ballet, une compagnie new-yorkaise, une compagnie encore là d'origine afro-américaine. Les deux directeurs, c'est des afro-américains, donc l'énergie est très différente.
Je suis très curieux de voir ça, moi.
Non, c'est extraordinaire. Puis justement, c'est une soirée. C'est deux pièces différentes, mais une pièce sur la musique de Bach, une pièce sur la musique de David Bowie. Donc, ça fait vraiment, on va d'une extrême à l'autre. Ouais. Mais les danseurs sont les mêmes, les chorégraphes sont les mêmes. Donc, on voit un petit peu ce qu'ils sont capables de faire de plusieurs façons. Puis, on a deux spectacles de ce Complexions Contemporary Ballet, parce que c'est une grande compagnie new-yorkaise qu'on amène ici. Alors, on trouvait que ça valait la peine. Puis, justement, il reste presque plus de billets. Là. C'est très limité. Les billets pour... c'est très limité dans beaucoup de... La plupart des spectacles du festival, mais Complexions, là, on parle dans les dizaines là, qui en restent.
Alors, seulement. Oui. Hein. Oh là là. Là. Bon, et ça, on parle du début du mois d'août, hein, les 2 et 3 août. Et puis, mon ami François...
Le festival en entier, c'est du 25 juillet au 5 août.
Au 5 août.
Complexions Contemporary Ballet, c'est du 2 août, c'est 2 et 3 août. Mais on a 9 spectacles sous le chapiteau. On en a à peu près 15 sur la scène extérieure, des spectacles gratuits, comme vous avez mentionné, avec des cours de danse avant. Donc, à chaque soirée, on a une thématique. Il y a des soirées tango, il y a des soirées flamenco, il y a des soirées traditionnelles.
J'adore.
Puis, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un cours de danse dans le style de la soirée.
Oui.
Et après ça, il y a un groupe de musique et un groupe de danseurs qui sont là sur la scène extérieure, un spectacle gratuit, mais les gens peuvent participer, il y a une scène, donc ils peuvent pratiquer les moves, comme on dit en bon français, qu'ils ont appris dans le cours de danse de tango tout juste avant.
C'est génial.
Dans la même soirée.
Il y aura aussi du Tchaïkovski, il y aura aussi Peer Gynt, de Grieg.
Ben, c'est ça.
Il y aura du Brahms, il y a énormément de choses.
L'orchestre métropolitain qui va nous proposer ça.
Ouais, c'est ça.
Ben, on a deux orchestres cette année. À chaque année, on essaye d'amener un volet quand même musical parce qu'on est le Festival des Arts est a priori un festival. Le noyau, disons, c'est la danse, mais on fait des arts visuels, on fait du cinéma, puis on fait aussi beaucoup de musique. Alors, on a une belle relation avec Yannick Nézet-Séguin, qui est un ami de
longue date,
ils viennent à chaque année, on a une petite résidence, on espère que ça continue, mais Yannick dit toujours que les trois places importantes pour lui, le festival, et c'est toujours partie des trois concerts qu'il va faire au Québec. Alors, on est très chanceux, puis c'est ça, il va faire du Brahms, il va faire un beau concert, mais on a aussi les violons du roi qui sont extraordinaires, où les violons du roi qui se promènent un peu partout. Ils viennent tout juste d'avoir des critiques très élogieuses aux États-Unis. Et puis, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas venus au festival. On les a eu quand même assez tôt dans notre histoire.
Okay.
Et puis, on les a reçus assez tôt dans notre histoire. Puis là, on les reçoit justement après 20 ans d'absence. Alors, on est très heureux. Ils font un spectacle qui s'appelle Les Sérénades. Donc, c'est plusieurs sérénades, un beau concert, un orchestre de...
De cordes.
De cordes.
Je vous en prie.
Donc, avec le chef d'orchestre qui va être là. Alors, on est très heureux de les recevoir. Ça, c'est le 26 juillet. Donc, on a deux orchestres classiques qui sont là. C'est très excitant pour nous. Là, c'est de grande envergure.
À tout seigneur, tout honneur, il nous reste une petite minute. Je voudrais qu'on parle de cette création, de cette première mondiale de crypto de Guillaume Côté, qui est donc votre acolyte aussi, grand danseur émérite, vous nous l'avez déjà dit. De quoi s'agit-il, crypto?
Crypto, c'est entièrement un nouveau spectacle. Guillaume s'est donné le défi de créer une soirée entière. avec nouvelles compositions musicales, nouvelle histoire et nouveaux costumes. Puis avec, il a justement encore là fait appel à trois autres danseurs extraordinaires à travers le monde. Là, c'est des danseurs. Moi, en tant que danseur, c'est mes danseurs favoris.
Donc, ah oui, hein?
S'ils connaissent vraiment, c'est des danseurs extraordinaires là, qui bougent comme personne ne peut bouger. Alors, Guillaume, en ayant le choix de tous ses amis, a fait appel à trois de ces danseurs extraordinaires-là. Puis, c'est une nouvelle histoire, puis justement, une nouvelle composition musicale encore là de Michael Carlson, qui est un compositeur extraordinaire. Uh-huh. L'histoire de Royce Vavreck, qui vient juste de gagner le prix Pulitzer en musique pour un opéra qu'il a fait. Donc, c'est vraiment une liste d'invités extraordinaires. Une nouvelle histoire sur... C'est un couple qui trouve un monstre slash humain dans le désert, oui. Et puis ils espèrent que cette personne-là, cette troisième personne, règle tous leurs problèmes.
Leurs problèmes.
Un peu. c'est basé sur l'idée humaine de la beauté, de la transformation, puis de l'acceptation dans la société de quelqu'un qui est différent, de ce monstre-là qui est différent. C'est un peu basé là-dessus.
Étienne Lavigne, on va vous souhaiter longue vie encore. 28 ans, c'est bien. On va vous en souhaiter au moins 28 autres. Hein? Et
ben,
puis, où est-ce qu'on peut encore se procurer les billets sur le site? On fait simplement Festival des Arts de Saint-Sauveur?
Oui, c'est festivaldesarts.ca.
D'accord.
Sur Ticket Pro aussi qu'on est là, on peut avoir des billets sur place. Comme j'ai dit, l'année passée, on avait beaucoup de guichets fermés. Cette année, on en a déjà plusieurs, alors faut pas tarder, mais on grandit, on veut plus de monde, on veut que tout le monde profite de ce calibre international.
D'accord, Étienne.
J'espère que tous vont venir.
Alors, tout le monde à Saint-Sauveur à partir du 25 juillet. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Hustler Tango par Louis Furry.
Excellent, que j'aime ça. Merci infiniment. Alors, livre audio, bon, vous savez François que c'est mon dada.
Non, oui, bien sûr.
J'en mange du livre audio, j'en vis, j'en propose à longueur d'année pour les auditeurs qui ne le sauraient peut-être pas dans le cadre de l'émission Des livres plein les oreilles qu'on retrouve tout à partir du jeudi midi sur les ondes de Canal M et n'importe quand sur notre site internet et qui vous propose l'actualité du livre audio partout où il se fait, c'est-à-dire pas seulement chez nous au Québec et pas seulement les livres de Vues et Voix qui existe sur le site livreaudio.vuesetvoix.com, mais aussi ce qui se fait à l'extérieur, de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, j'ai pour vous aujourd'hui d'abord des nouveautés de Écoutez lire. Écoutez lire, ça fait partie de Gallimard et c'est donc ce que nous propose Gallimard dans le domaine du livre audio. Et sans savoir que c'était votre auteur préféré, ou du moins l'un d'eux,
oui.
Et c'est vrai que je ne le savais pas, j'ai choisi la reprise en audio d'un classique.
Un grand classique.
Un énorme classique, autrement dit, Le Passe-Muraille de Marcel Aimé, qui est suivi d'ailleurs dans cet enregistrement-là de L'Huissier, une autre nouvelle du même Marcel Aimé. Qu'est-ce que vous aimez dans Marcel Aimé, François Bruel ? Baruel ?
Ce que j'aime dans Marcel Aimé, c'est dans sa deuxième période, c'est sa simplicité du texte français qui est d'une pureté, d'une grande finesse en même temps. Et en même temps, c'est extrêmement truculent. Il n'hésite pas à nommer les choses et à faire rentrer le lecteur dans une espèce d'intimité du personnage qui n'est jamais voyeuriste, mais qui est toujours très chaleureuse, comme s'il aimait en fait ses personnages. Et il y a toujours une sorte de surnaturel dans ses bouquins et de fantastique,
oui.
Dans lequel on rentre très très bien, parce que c'est pas outré. C'est tellement charmant et tellement riche et tellement plein de couleurs dans Marcel Aimé, est tellement bien écrit que, en fait, on a l'impression parfois de voir un script de film à tel point qu'il y a eu La Jument Verte,
Le
Passe-Muraille, énormément de ces livres ont été tournés, portés à l'écran.
Alors, c'est aussi facile de rentrer dans du Marcel Aimé que pour du Tilleul de rentrer dans un mur. Vous propose.
C'est vraiment ça.
Je vous propose un extrait. Il va se présenter lui-même. Le lecteur.
Le passe-muraille et l'huissier. Marcel Aimé. Le passe-muraille. Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de troisième classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et, à la belle saison, il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon. Dutilleul venait d'entrer dans sa 43e année lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris dans le vestibule de son petit appartement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres et, le courant revenu, se trouva sur le palier du troisième étage. Comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir et, malgré les remontrances de sa raison, il se décida à rentrer chez lui comme il en était sorti, en passant à travers la muraille. Cette étrange faculté, qui semblait ne répondre à aucune de ses aspirations, ne laissa pas de le contrarier un peu, et le lendemain samedi, profitant de la semaine anglaise, il alla trouver un médecin du quartier pour lui exposer son cas.
Arrivé sur le palier du deuxième étage, je suis repris par le désir de tenter l'expérience. Personne ne descend. Personne ne monte. Alors, en douce, je m'approche du mur. Je risque un doigt. Oh, il rentre. Un deuxième. Oh, un troisième. Oh là là. Ma main rentre comme dans du beurre. Alors je me dis, allons-y pour le bras.
Tu parles d'un truc, mon vieux.
Non, tu me racontes des blagues, voyons. C'est impossible, ça.
Impossible, je le croyais. Mais c'est comme ça. Alors, je me dis, si mon bras y passe, hein, le reste aussi.
Alors.
Ah oh, allons, Minet, tu m'as encore cassé quelque chose. Sale bête, va.
Ça, c'était pour vous faire plaisir. Un extrait du film Le Passe-Muraille. Et c'était Bourville qui tenait le rôle du tilleul. Vous l'aurez peut-être reconnu. Alors, ça, ce sont deux nouvelles que vous pouvez vous procurer sur le site Livre Audio de Gallimard. C'est toujours le mot rubrique qui me vient à l'esprit, mais ce n'est pas le bon. Ça fait partie de Gallimard et ça s'appelle Écouter lire. Voilà.
C'est la branche.
La branche, voilà. Je vous remercie beaucoup. Moi, la branche, dans mon cas, c'était cassée. J'ai failli casser la figure. J'ai autre chose à vous proposer. Je ne sais pas si vous étiez déjà au Québec à ce moment-là, mais il y a eu une émission très, très populaire. Celle de, au départ, l'humoriste et comédien Bruno Blanchet. Et ce type-là s'est mis à voyager de par le monde et il a créé La Frousse autour du monde. Donc, ça a été un paquet de documentaires, de reportages, mais ça a donné lieu aussi à des bouquins. Et Radio-Canada a demandé à Bruno Blanchet, parce que vous savez qu'à Radio-Canada, on fait aussi éventuellement dans le livre audio. Oui. Donc, ils ont demandé à Bruno Blanchet s'il accepterait de lire ces quatre livres-là. Et Blanchet a eu très peur de l'aventure, quasiment plus que de toutes les aventures qu'il a faites à droite et à gauche. Et puis finalement, eh bien, il s'est lancé, puis il s'est dit, ben oui, je vais vous les lire, ces bouquins. Alors, il nous entraîne dans différentes péripéties, hein, que ce soit quand il explore la jungle au Cambodge à dos d'éléphant, quand il est au Japon en patin à roues alignées, quand il traverse le désert de Gobi dans une camionnette pourrie, quand il traverse le fleuve Yangtze avec un groupe de l'âge d'or, on le retrouve en Éthiopie, une croisière à la recherche d'un oiseau rare sur la côte africaine avec son fidèle vélo. Bref, c'est vraiment une aventure contemporaine racontée par Bruno Blanchet. Un extrait.
Ouais, j'étais rendu là en Chine. Ah, la Chine m'a brisé. La Chine a été un des voyages les plus difficiles que j'ai fait en termes de tout. J'arrive pas à me faire d'amis. Je comprends rien. Tout est écrit en ping-pong. Il y a personne qui veut me parler. Il y a personne qui parle l'anglais. Je baragouine trois mots de chinois. Et honnêtement, je vis un bout très, très, très difficile. Tout de suite après avoir pris la décision de ne pas rentrer, je vis sans doute le bout le plus difficile de mon voyage. Et un bout surtout qui m'inspire pas beaucoup. Je me retrouve dans le milieu de la Chine et j'ai rien à raconter. Je vais à la chute, la plus haute chute de Chine. Et je fais un détour incroyable pour me rendre jusque-là, juste pour réaliser qu'on est en saison sèche. Et il n'y a pas d'eau dans la chute. C'est comme quatre gouttes d'eau. Et ça a été ça, ça a été de catastrophe en catastrophe, mon voyage en Chine. Et puis, on associe souvent les malheurs à la fois que je me suis fait voler ma caméra sur la place Tiananmen. Oui, OK. Ça m'est arrivé, mais ça, c'est des accidents. Puis, il ne faut pas détester un pays à cause qu'il nous arrive des malheurs ou qu'on commet des maladresses. Parce que, à rebours, je pense que la Chine, c'est un de mes plus véritable voyage. Ça peut se dire plus véritable.
Bienvenue dans l'univers de Bruno Blanchet. François, oui. Alors imaginez quatre tomes comme ça. Alors, non, parce que c'est sûr qu'il faut que vous sachiez. Bon, ce type-là a d'abord été conducteur d'un gros camion, un 10 roues, et puis à un moment donné, il y a je ne sais plus quelle radio en province, en Gaspésie, je pense, qui voulait l'avoir comme morning man, puis il a dit non, moi j'aime mieux rouler en camion. Ouais. Finalement, il a fait une école de communication poussée par les uns et les autres. Et puis finalement, ben, il a été récupéré. Bon, d'abord, il a été aussi comédien. Il a joué notamment dans La Petite Séduction ou La Grande Séduction, que j'ai tellement aimé, le film de Ken Scott. Mmh. Et puis, il a aussi travaillé avec, avec des gens aussi fous que lui. Je pense à La Fin du Monde est à 7 heures avec La Brecque. Je pense à... En tout cas, c'est... Voilà, Bruno Blanchet, 3 livres, 3 tomes, c'est sur le site de Radio-Canada qui présente ses livres audio.
J'adore ça, déjà, c'est le non-voyage, ou c'est le voyage raté, non, c'est tellement drôle. On a tous un peu vécu ça, de temps en temps, ce genre de truc, mais au moins il le fait avec humour. Lui.
Et ça s'appelle La Frousse autour du monde.
Ah, c'est sûr.
Ah, une chance que Maurice est là. Il paraît que j'ai dit 3 livres, mais non, c'est bel et bien 4 livres qu'il nous offre. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on vous revient avec notamment Emmanuel Robitaille et son billet sur les biais cognitifs. Et puis, on va aller faire un petit tour à Rimouski après, sur le bord de mer.
Vous écoutez Aime l'été.
Avec Clotilde Seille et François Baruel, et bientôt Emmanuel Robitaille qui va se joindre à nous.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain ça prévient comme un bateau qui revient. Sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui viendra à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Alors voici le moment venu de nous faire marcher les boyaux de la tête. Hein, on va faire fonctionner tout ça à toute blingue.
Oh, que c'est français, ça, c'est bon. Hein, hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Attends, t'as pas entendu ça. Bah, oui, ça fait longtemps.
Comment t'écris ça?
Blinde, je crois, tout simplement.
Ah, toute blinde.
Ou Berzingue aussi. Hein.
Ah, bah, toute Berzingue, oui. Il faudrait que je retrouve l'origine de ça.
Alors, Emmanuel.
Eh, hey, bonjour.
Ça va bien, Emmanuel?
Comment ça va?
On va faire aller nos neurones et nos boyaux de cerveau, mais on va s'organiser surtout pour qu'ils aillent dans le bon sens et qu'ils aillent bien. C'est la chronique psycho des biais cognitifs du mardi. Ah,
ça, c'est je suis impatient, là.
On en a vu quelques-uns, mais c'est toujours important ou intéressant de se rappeler qu'on ne parle pas de biais de train, de biais d'avion aussi. On parle de biais cognitif. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Vous commencez à être quand
ça
même...
Ça fait un peu penser de travers, biais. Biais, c'est le travers.
C'est le chemin de traverse. C'est ça. C'est la diagonale. Non, mais pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous et qui n'ont pas entendu parler de biais cognitif encore, ce sont des raccourcis que nos cerveaux prennent pour émettre des jugements, pour prendre des décisions qui ont la prétention de remplacer le processus analytique et rationnel, mais que c'est pas ça pantoute et que ça mène malheureusement souvent à des lectures de réalité, à des conclusions qui sont biaisées, à des erreurs de jugement ou de décision. Mais pourquoi voudrions-nous faire des erreurs? Pourquoi voudrions-nous prendre des raccourcis? Premièrement, parce que ça va plus vite.
C'est sûr.
C'est clair.
Point numéro un, ça va plus vite, j'ai pas le temps de niaiser.
C'est moins fatigant.
C'est moins fatigant, ça prend exactement. Il y a d'autres raisons aussi. Ben, par manque de temps, on peut l'utiliser. Si on n'a pas les capacités cognitives et analytiques de bien évaluer une situation, on peut être à même d'utiliser un biais cognitif sans s'en rendre compte. Hein. C'est pas volontaire, ça. Là. C'est très, très subconscient, voire inconscient, ça. On peut manquer d'intérêt pour bien analyser une situation. Donc, on va prendre un petit raccourci, puis ça va être mieux comme ça. Hein. Manquer d'informations également, on va combler des vides. Ou parce que ça fait émotionnellement ou moralement notre affaire et on veut se préserver parce que la réalité telle qu'elle est fait pas notre affaire. OK?
D'accord.
Et cette semaine, il y a un nouveau biais au menu.
Ah!
Ah, pardon, je vais faire ma main.
Ah!
Merci. On parle du biais, l'effet Barnum ou l'effet Forer. L'effet Barnum qui a été repris
comme le
par
cirque.
Forer. Comme le cirque. Hey, mais check bien ça.
OK, comme le cirque Barnum. Okay.
Ça consiste à accepter une description vague de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même. C'est se sentir interpellé sur des bases partielles, floues et générales d'une description et penser que ça colle à nous. On lui accorde aussi le nom de l'Américain qui l'a inventé. C'est Paul Meehl, un psychologue, qui a inventé ce biais-là en référence à l'homme de cirque, comme tu l'as si bien dit, Phineas Taylor Barnum, qui, dans les années 1850, faisait un numéro de lecture à froid. Il prenait des gens, il nommait des choses, et les gens dans l'assistance pensaient que c'était à eux qu'il parlait, à une seule personne. Quelle autre chose on peut penser qui utilise cet effet-là? Jean-Sébastien lève la main en régie, t'es-tu cute?
L'horoscope.
C'est exactement le plus grand exemple.
Bravo, mais oui, bien sûr.
L'horoscope est un des plus gros exemples de l'effet Barnum qu'on peut voir actuellement. Et attention, je ne discrédite pas l'astrologie ou les signes astrologiques pour moi ont un effet important. Je te parle de l'horoscope du journal du samedi matin.
Oui, quand tu vois tel signe, il va vous arriver.
Mettons nos croyances de côté, sincèrement. C'est Forer, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a réutilisé ce biais-là et qui l'a testé en passant un test de personnalité à des gens. En leur donnant comme résultat des bouts d'horoscope aléatoires et ça donnait le résultat suivant. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de les compenser. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Quelques-unes de vos aspirations ont tendance à être irréalistes. Discipliné et faisant preuve de maîtrise de vous-même, extérieurement, vous avez tendance à être soucieux et incertain intérieurement, etc., etc.
Et là, ça, tu dis, mon Dieu, mais il parle de moi.
C'est un vrai test de personnalité qui a été donné dans une expérience en laboratoire par un psychologue. Il y avait une cohorte. Et ensuite, on a demandé à ces gens-là, on leur a donné cette définition-là, cette description très aléatoire, et on leur a demandé de donner une cote de 0 à 5 sur à quel point ils croyaient en l'exactitude, à quel point ça matche avec moi.
Ils étaient tous à 4.
Selon vous, combien? Toi, tu dis 4?
4.
Sur 5 d'exactitude?
Même 4,5.
Oui, c'est ça. Oui, moi, je me serais rapproché de 5.
4,8.
4.2.
C'est 4.2, wow. La moyenne d'exactitude.
François,
et c'était vraiment
le droit de
quoi.
Revenir la semaine prochaine.
T'es un participant.
Oh, t'as le droit là. De revenir je en deuxième semaine.
Donc, on a parlé des horoscopes, puis je joue sur ce phénomène. Mais attention, comme j'ai dit, moi, je ne prends pas position. Et l'astrologie est une science, je dirais. Oui, c'est oui, un oui. sujet qui m'intéresse énormément. Mais plus encore, la médiumnité, la lecture de pensée, l'hypnotisme, les traits de personnalité, les tests, pardon, de personnalité, plus psychopop, là, dans la revue Cool des adolescents, mettons. Là. Tout ça, c'est pas des tests standardisés psychologiques et il y a de la médiumnité qui est très bonne, mais il faut faire attention, comme dans toute chose. Les pervers narcissiques l'utilisent également énormément. Des relations toxiques, des gens qui veulent manipuler. Parce que toute personne qui veut se rapprocher de nous, nous offrir un sentiment de proximité, de compréhension mutuelle, c'est ça qui est utilisé. L'impression de se faire connaître. Hein? Le mimétisme est très
mais
utilisé.
À l'inverse, pour faire mal.
Eh bien, exactement.
C'est pareil.
Donc, c'est un biais indéniablement efficace aux conséquences indéniablement dangereuses. Il faut faire attention parce qu'un test de personnalité qui me dit qui je suis, comment je fonctionne ou selon ma réponse, voici ce que je devrais faire. Pour des gens qui ont une faible définition de leur identité ou qui sont influençables ou encore en situation de vulnérabilité, et on a tous été en situation de vulnérabilité une fois dans notre vie où on se pose beaucoup de questions, on a de la difficulté à trouver des réponses, on cherche une personne ou un cadre extérieur pour nous guider, tout le monde, moi ça m'est arrivé souvent des moments comme ça, et j'imagine, j'ose croire que c'est la même chose pour tout le monde ici, ben ça devient assez facilement comprenable à quel point cet effet-là peut être applicable rapidement et souvent et amener à des conclusions, des décisions mauvaises et à faire confiance à la mauvaise personne. Donc comment on peut essayer de s'en sortir? Bien se connaître. Appuyer sur des faits, chaque caractéristique ou description de soi qu'on élabore ou qu'une autre personne élabore. Si ça nous fait, surtout si ça nous fait plaisir, hein, ce que quelqu'un nous dit là, redoubler de vigilance et de critique. Hein? Sortir son regard critique. Là, je me sens vraiment comme un pan. Là. Je me sens... Ça fait vraiment mon affaire, ce que j'entends présentement. C'est-tu du flattage d'ego? Est-ce que à quoi est questionner l'intention? Pourquoi cette personne-là me décrit-elle? Pourquoi je suis dans... C'est quoi le contexte dans lequel je recherche cette description-là de moi-même? Suis-je dans une situation vulnérable? Si j'ai l'impression que je suis dans un moment de fragilité ou de vulnérabilité, il faut absolument que je le reconnaisse et que j'essaie d'éviter de passer ces tests-là ou de m'en remettre tout de suite, du moins, à quelqu'un d'autre. Essayer de prendre un moment... On peut essayer de prendre un moment de recul et d'attendre un moment où on va être un petit peu plus solide ou avoir au moins émis des bases, des idées de base. Et si on rencontre quelqu'un, comme je l'ai dit, se questionner sur les intentions, pourquoi il veut me décrire? Pourquoi il cherche à me prouver qu'il me connaît si bien? Et garder en tête toujours ce biais. À partir d'aujourd'hui, on devrait s'en sortir.
Ouais. À chaque fois, ça me fait réfléchir.
C'est profond, mais.
Mais c'est vrai.
C'est super, c'est
vrai.
Très intéressant.
C'est vrai. Alors voilà, mais je tiens à répéter qu'aucune croyance n'a été émise ici et que c'est important de laisser le bénéfice du doute, mais d'ajouter un petit peu de vigilance puis questionner les intentions dans la vie, c'est important. Voilà.
Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui
n'est jamais arrivé. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire, mais je n'y comprenais rien.
Madureira par Benjamin Biolay et Melville Poupeau.
Oui, je me souviens bien de la version originale hein, de cette chanson-là. Mais magnifique. Ça, c'est une magnifique version. Merci beaucoup, Maurice, de nous l'avoir fait découvrir. Celle du regretté Nino Ferrer aussi, qui était peut-être plus bossa nova traditionnel. Mais quelle chanson dure.
Très riche, là.
Oh, l'arrangement, c'est incroyable. Enfin bon, c'est du Biolay. Mmh. Hein. On le sait bien. Bonjour, Rimouski. Bonjour, Madame Proulx-Martine.
Oui, bonjour.
Alors, on change complètement d'univers. On quitte le Brésil pour s'en aller. Vous rencontrez
oui.
À Rimouski.
Oui, l'air salin.
L'air salin. Voilà, exactement. Alors, les grandes fêtes TELUS et le festival Concert aux îles du Bic, ce sont les principaux sujets dont il sera question à présent avec vous, Martine.
Oui, ben en fait, ce sont deux événements qui se déroulent à Rimouski cet été. Mm-hmm. Le premier, donc, les grandes fêtes TELUS commencent dans quelques jours, en fait, commencent ce jeudi. Mm-hmm. Donc, il s'agit en fait d'un festival de musique populaire dans la plus pure tradition là, de tous les festivals de musique qui se déroulent au Québec l'été. Mm-hmm. Donc, c'est notre événement à nous, ici à Rimouski, les grandes fêtes TELUS. Ça existe depuis 12 ans maintenant. Mm-hmm. Et dans le fond, ça se veut un événement populaire, c'est-à-dire qu'on réunit à la fois des vedettes de la scène québécoise, de la scène internationale, des chanteurs de la relève ou des chanteurs plus établis. Mm-hmm. Et puis, on concocte une programmation pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais ça demeure, bien sûr, dans l'esprit de soit rock ou musique populaire.
Mais quelle programmation! J'ai ça sous les yeux. Bryan Adams, Véronique Dicker, Marc Dupré, Éric Lapointe, Marie-May. Là, on ne parle pas de petits jeunes qui débutent, à part celui aussi, peut-être.
Oui.
Jean-Pierre Ferland, je ne sais pas, c'est un petit jeune, ça?
Le petit nouveau, là, qui fait une tournée. Non. Alors, en fait, ces noms que vous venez de nommer, ce sont quelques-unes des vedettes mm-hmm. qui ont passé sur la scène des grandes fêtes là, dans le passé. Alors, la programmation pour cet été, elle est tout aussi relevée, bien
oui.
sûr. On a mis des gros noms. Hein.
Excusez-moi, oui, je n'avais pas vu, c'était dans le passé. Oh, pardon.
Oui.
Pardon. Alors, donc, mais ce sont des grands noms quand même. Alors, au présent, pardon Martine, je suis désolée.
Pour la grande
Il n'y a pas de problème.
Télus.
Alors, ben oui, alors on commence, le festival en fait va commencer ce jeudi, 18 juillet.
Oui.
Il y aura d'abord Yvan Pedneau, un chanteur qui a fait la voix là, l'an passé et qui présente un spectacle avec les classiques du groupe Queen.
Mmh.
Et puis ensuite, c'est le spectacle d'Éric Lapointe.
Okay.
Donc, le jeudi soir, c'est la soirée rock avec nos vedettes québécoises, Éric Lapointe.
Qui revient.
Il donne tout un concert, tout un spectacle. Je pense que ça vaut quand même le coup d'être
vu
et entendu. Ensuite, le vendredi soir, alors là, c'est plus la soirée techno-rap, si je peux dire. Donc, ça commence d'abord avec un DJ de la ville de Québec. Ensuite, il y aura Loud, qui est le rappeur québécois vedette de l'heure. Et la soirée culmine avec Pitbull, qui est un des plus grands rappeurs du monde présentement, là, de sa génération.
On lui a enlevé sa muselière.
j'espère bien qu'il sera gentil.
Excusez-la.
Mais je vous comprends. Hein,
Il a du mordant.
Ah oui, il doit avoir du mordant, je présume, pour s'être affublé appelé d'un comme tel ça. Nom de scène. C'est qu'il doit, doit avoir de bons crocs.
OK. Alors, je referme cette parenthèse, finalement, pas si drôle que ça. Samedi.
Oui, le samedi, donc là, ça va être la soirée rock. Avec deux groupes canadiens, en fait, The Stand Still, qui est un duo originaire d'Oshawa, en Ontario, et puis ensuite Nickelback, qui est un grand groupe rock incontournable sur la scène rock mondiale actuelle, et qui est un groupe du Canada également. Donc, une soirée rock pour ceux qui aiment ce genre musical et qui devrait être très, très relevé. Et le festival se termine le dimanche 21 juillet, d'abord par un pique-nique musical. Donc, c'est la seule activité gratuite là, de l'événement. C'est un pique-nique musical présenté par la ville de Rimouski et avec Martin Deschamps.
D'accord.
C'est au Parc Beau Séjour. Et ensuite, en soirée, on touche à plusieurs styles. Il y a d'abord un groupe rimousquois qui s'appelle Les Années Jukebox qui propose une revue musicale des années 50-60. C'est très rythmé, très enlevant, ça va danser.
Et ça va twister dans les chaumières.
C'est ça, exactement.
Oui, tout à fait. Ensuite, il y a une portion humoriste avec Peter McLeod. Mm-hmm. Et ça se termine avec Patrice Michaud, chanteur québécois chouchou.
Bien sûr.
Et il recevra quelques invités, dont Ariane Moffat et Yann Perrault.
Oui, des petits jeunes qui débutent aussi.
Oui, ça
qu'on aime toujours retrouver. Hein. Ariane Moffat sur scène, ça déménage aussi.
Oui,
hein.
Tout à fait. C'est une bête de scène. Là. Je pense que cette expression... correspond bien là, pour elle. Et donc, l'événement se déroule au Parc Beau Séjour, qui est un grand espace vert, là, à Rimouski.
Accessible?
Accessible, tout à fait. Le site est facilement accessible, mais il y a également, pendant le festival, une section réservée, une section spéciale accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parfait.
Donc, c'est accessible. Alors, bien sûr, il faut vérifier, il reste encore quelques billets. Okay. Les tarifs oscillent, là, selon les soirs, entre 30 et 55 $.
Quand même. Et c'est à l'extérieur, tout ça?
Exactement, oui. D'accord. Oui, c'est un festival extérieur.
D'accord. Bon, il nous reste 2-3 minutes. Là. Je voudrais qu'on parle des concerts aux Îles du Bic, s'il vous plaît, du 3 au 11 août. On est plus dans la musique classique.
Bien sûr. Oui, alors là, c'est un tout autre univers. C'est un festival essentiellement consacré à la musique de chambre qui en sera à sa 18e édition. La formule des concerts aux Îles-du-Bic, en fait, qui distingue cet événement là, des autres du genre, c'est qu'ils accueillent des artistes en résidence et chaque prestation, chaque concert est un concert unique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des artistes qui font une tournée avec un concert et qu'on pourrait voir ailleurs sur scène durant l'année. Ce sont vraiment des prestations uniques, c'est-à-dire qu'il y a un programme spécifique qui est monté, proposé chaque soir par des artistes qui souvent n'ont peut-être pas joué ensemble auparavant.
Ah oui?
Et se rencontrent sur cette scène
des
concerts aux Îles-du-Bic. Donc, c'est plein de beaux moments de magie et bien sûr, c'est ouvert à tous, évidemment, qu'on soit mélomane, aguerri ou néophyte, c'est vraiment ouvert à tous. Et on y fait de belles découvertes. Les concerts se déroulent essentiellement à l'église du Bic. Le Bic fait partie de la ville de Rimouski maintenant. Et également à l'église de Saint-Fabien. Oui, tout à fait, le Bic fait partie de la ville de Rimouski. Et donc, il y aura une programmation assez variée. Là, le concert d'ouverture sera consacré à Chopin. Mm-hmm. Ensuite, le mercredi soir, ce sont plutôt des œuvres de grands compositeurs français, Debussy, Ravel, Bizet. Le concert du mercredi soir, justement, accueille un ensemble de guitares.
Ah, fantastique.
Forestar.
Oui, Forestaré, de... c'est, vous savez qu'ils ont, ils ont déjà joué avec, avec Richard Desjardins.
Ah, oui.
Ah oui, oui, ils ont déjà même... ah oui, oui, ça, ça, ça avait été un concert et ça a donné lieu d'ailleurs aussi, je pense, à un enregistrement de Richard Desjardins avec cet ensemble-là et d'entendre des œuvres comme, comme Natar ou autre. En tout cas, alors c'est pour ça que oui, c'est, ah, c'est un ensemble de guitares absolument fabuleuse, j'adore ça.
Ah ben oui. J'ai très hâte de les voir moi-même.
Ah oui, 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 absolument.
Et on a la chance aussi, en fait, nos jeunes musiciens là, de la région auront la chance de, d'avoir une classe de maître avec l'ensemble Forestaré le samedi matin, le vendredi matin, je crois, pardon.
Quel bonheur.
Ah, oui.
Et puis, vous allez avoir Mario, Mario F. Paquet, que je connais bien, qui est un ancien collègue,
oui,
radio-canadien.
Ah oui, c'est un grand bonheur. Je crois que c'est la troisième année que M. Paquet se joint là, à l'équipe de concert aux Îles du Bic.
Ouais.
Pour une causerie pré-concert, d'abord le jeudi 8 août à l'église de Saint-Fabien, et ensuite pour animer le concert gala du samedi soir. Et pour l'avoir rencontré là, les années passées, là, c'est vraiment...
C'est un être délicieux.
Oui, tout à fait. Et il a tellement de plaisir à faire ça et à être des nôtres, là, si je peux dire, pendant ce festival-là.
Mais ouais,
donc, non, alors on vous le dit, là, il y aura vraiment des moments de pur ravissement pendant ce festival. Je vous invite à aller consulter la programmation complète. Sur le site web qui est donc le www.bicmusique.com, donc bicmusique.com, et d'encourager ce beau petit festival qui s'est vu récompensé de plusieurs prix Opus pour la qualité justement des programmes proposés.
Wow.
Pour la formule là, inusitée un peu que je vous disais là, d'entrée de jeu, là, de réunir des musiciens sur scène pour des prestations uniques. Donc, je vous le dis, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Écoutez, et vous le faites tellement bien, Martine, qu'on a juste envie d'arrêter de travailler et de se dire, bon, ben voilà, je plaque tout, débrouillez-vous, je monte à Rimouski, je vais faire un gros bisou à Mario F. Paquet que vous allez embrasser bien, bien fort de ma part.
Avec grand plaisir.
Et Martine, on va vous retrouver pour d'autres chroniques, hein, d'ailleurs, ici même sur les ondes.
Oui, avec grand plaisir aussi, bien sûr. Alors, je crois que notre prochain rendez-vous est dans 2 semaines, mardi dans 2 semaines. Et on l'idée de vous parler des autres atouts qu'on a ici à Rimouski et des belles choses qui se passent dans notre magnifique ville cet été.
Vraiment, ça fait longtemps que je le dis, moi, depuis plus de 30 ans que je vis ici, mais ce sont des régions dont je ne me lasse pas et je suis toujours très malheureuse lorsque je ne peux pas y aller, ce qui semblerait être le cas cette année. Parce que un été sans venir vous voir, là, c'est comme pas vraiment c'est pas un vrai été, mais bon, on sait jamais, hein. L'été est loin d'être fini, alors je vais.
Tout à fait. Et écoutez.
Martine,
on n'est pas plus loin qu'à 5 heures de route de Montréal, on vous attend.
Merci beaucoup, et entre autres pour aller voir et entendre le célèbre Requiem de Gabriel Fauré, qui est un enchantement du genre.
Oh oui. Et dans l'acoustique exceptionnelle de l'église de Saint-Fabien, ce sera un pur délice.
Peut rentrer combien de personnes, là?
Ah, la bonne question. Ça doit être autour de 500-600 personnes. Je crois, je vous dirais, là, sans être certaine, là, mais une église de taille moyenne, là, d'un petit village, moi, je crois que c'est autour de 500-600 personnes, probablement.
Parce qu'il va y avoir aussi du monde pour chanter le Requiem de Fauré. Ça prend de la place aussi, ça, dans le cœur.
Oui,
hein?
Le cœur qui va accompagner, qui va chanter le tout, en fait, là, en compagnie de deux solistes.
Oui. Absolument. Mais écoutez, Martine, merci. Merci beaucoup de nous convier à ce magnifique festival. Rappelons qu'il commence, du moins pour les rencontres musicales, ça c'est à partir du 3 août.
Oui.
Mais en ce qui concerne ce dont nous parlions auparavant, les grandes fêtes TELUS, ça commence dès jeudi le 18.
Oui.
Donc en fait, c'est vraiment pour la fin de semaine qui s'annonce peut-être un petit peu d'orage, mais pas trop pluvieux, hein.
Je pense que ça devrait aller.
On va vous le souhaiter.
Oui.
Merci, Martine. Oui.
Ça me fait plaisir. Ben, j'allais dire simplement pour consulter aussi, pour trouver l'information là, pour les grandes fêtes, le site web, www.lesgrandesfêtes.com.
Merci infiniment, Martine. On se retrouve dans 2 semaines avec bonheur.
Un grand plaisir pour moi aussi. Bonne journée.
Et oui, Elle est bien, cette Martine Proulx. Ah, hein. Elle en parle tellement bien de son festival. Ouais. Un vrai bonheur. François Baruel.
Oui, Clotilde.
On se quitte, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais oui, à mardi.
Alors, je vous souhaite une belle semaine aussi à tous les éditeurs. Merci à tous les intervenants. Merci à Claire Guérin qui assure la recherche et Louis Garon qui coordonne tout ça. Et merci à Maurice Bolduc. C'était Clotilde Saïe. Salut.